Bouillon de lecture. Bouillon de lecture profite de l'été pour vous faire redécouvrir les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Donc c'est la troisième semaine. Catherine, aujourd'hui tu vas nous lire.
Je vais vous lire juste une toute petite page, toute petite chronique. Simplement, il faut savoir qu'on va lire au total 4-5 chroniques, mais qu'en fait, il y en a 26 dans la première édition.
Et 28
et Hervé, on a deux de plus, parce qu'il est très fort. Il est très fort.
Très, très fort.
Ah, voilà. Donc, c'est pour montrer l'évolution, c'est-à-dire qu'on a vu les premiers hommes débarquer sur Mars. Et
la semaine dernière, on a compris qu'en fait, les premiers hommes mouraient en arrivant, quoi, pour une cause ou pour une autre.
Voilà. Enfin, disons que les Martiens aidaient bien la chose, hein, quand même.
Oui, tout
voilà.
À fait.
Et alors là, la semaine dernière, on était en avril 2000. Là, on va faire un petit passage en février 2002. Très court.
On peut dire qu'il y a une petite inconnue, parce que ce sont des chroniques. Hein. Ce n'est pas un livre écrit d'un seul tenant au départ. Au début, on comprend que les Martiens existent et peuvent tuer les humains. J'ai dit peuvent, hein. Ils ne sont pas forcément responsables. Mais à la fin, dans les dernières chroniques...
On ne raconte pas la fin.
Et j'ai failli qui dire, a mangé l'autre.
Ah ben non. Ouf. Il allait donner la fin du petit chaperon rouge.
Non, j'allais... Bah oui. J'allais pas donner la fin, mais enfin bon, oui, effectivement, j'avançais un peu plus dans l'histoire.
Enfin, tout ça pour dire.
Vous avez bien raison.
Voilà. Je crois que Hervé voulait nous dire que même si ce sont des chroniques séparées, en fait, on pense que Ray Bradbury a voulu faire une sorte de roman et que ça se suit tout cela.
Exactement. Oui. Voilà. Il a créé un univers onirique.
Exactement.
Tout à fait.
Et on ne divulgâchera pas la fin.
Exactement. Si, à la fin du mois.
À la fin du mois.
Les fusées calcinaient les champs rocailleux, changeaient la pierre en lave, le bois en charbon, l'eau en vapeur, le sable et la silice en une matière verte et vitreuse dont les éclats un peu partout reflétaient l'invasion comme des miroirs brisés. Les fusées arrivaient avec des roulements de tambour dans la nuit. Les fusées arrivaient comme des sauterelles par vagues, soulevant d'énormes fleurs de fumée ardente. Et des fusées s'élançaient des hommes armés de marteaux pour façonner cet univers insolite à l'image de leur monde familier, en écraser toute l'étrangeté. Carnivores aux dents d'acier, la bouche frangée de clous, ils les crachaient dans leurs mains expertes, édifiant la charpente des maisons, posant avec agilité sur les toits l'écran des bardeaux contre les étoiles vagabondes et celui des stores verts aux fenêtres contre la nuit. Et quand les charpentiers eurent bâclé leur travail, les femmes apparurent avec leurs pots de fleurs, leurs chintz et leurs casseroles, couvrant avec leur fracas de vaisselle le silence martien, relégué derrière les portes et les fenêtres closes. En 6 mois, une douzaine de petites villes avaient surgi sur la planète nue, dans une débauche de tubes à néons grésillants et d'ampoules électriques. Au total, 90 000 habitants environ avaient débarqué sur Mars et sur la Terre, d'autres en foule faisaient leurs bagages. Alors oui, là, un petit passage des sauterelles pour montrer que les hommes s'installent de plus en plus vite, en masse, et comme à leur habitude, en général, ils s'installent en détruisant tout ce qu'il y a sur place, parce que c'est tellement mieux ce qu'ils apportent, n'est-ce pas ?
Exactement.
Ça, c'est de la bonne anticipation de la part de M. Bradbury. Alors on va un petit peu sauter dans le temps, puisque ce que je viens de vous lire était de février 2002.
Et la prochaine a lieu en décembre 2005.
Voilà, donc il s'est passé 3 ans, mais il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans. Et vous allez voir que ce monde a bien changé parce qu'il se passe des choses terribles sur la Terre.
Le monde a bien changé.
C'était avant Sarkozy.
Oh, même avant. Ah, ça dépend si c'est dans la version de...
Bon.
Allez, soyons sérieux. Allons-y. Hervé, soyons sérieux.
Décembre 2005, les villes muettes. Au bord de la mer morte de Mars, il y avait une petite ville blanche silencieuse, déserte. On y voyait âmes qui vivent. Des lampes solitaires brûlaient toute la journée dans les magasins. Les portes des boutiques béaient comme si les gens avaient décampé sans prendre le temps de les fermer à clé. Des revues apportées de la Terre le mois précédent par la fusée d'argent palpitaient à l'abandon jaunissante sur des présentoirs métalliques devant les drugstores silencieux. La ville était morte. Ses lits vides et froids. Nul autre bruit que le bourdonnement des lignes électriques et des générateurs qui continuaient de fonctionner tout seuls. L'eau débordait des baignoires oubliées, inondait les salons, se répandait sur les vérandas et dans les petits jardins où elle allait arroser des fleurs négligées. Dans les salles de cinéma obscures, des chewing-gums encore marqués d'empreintes de dents commençaient à durcir sous les sièges. Or, dans les avenues désertes de la ville, sifflotant, s'appliquant à faire rouler à coups de pied une boîte de conserve devant lui, voici que s'avançait une espèce de grand échalas. Ses yeux sombres et tranquilles exprimaient un sentiment de solitude. Il remuait ses mains osseuses dans ses poches, d'où s'élevait un cliquetis de pièces neuves. De temps en temps, il en jetait une par terre. Ce faisant, il laissait échapper un petit rire, puis il continuait à marcher en semant des pièces de tous les côtés. Il s'appelait Walter Grip et possédait un gisement minier et une baraque perdue tout là-haut dans les collines bleues de Mars. Il descendait en ville tous les 15 jours pour essayer de se trouver une épouse intelligente et placide. Au fil des ans, il était toujours revenu à sa baraque, seul et déçu. La semaine précédente, en arrivant en ville, il l'avait trouvée dans cet état. Sa surprise avait été telle qu'il s'était rué chez un traiteur, avait ouvert une vitrine en grand et s'était commandé un triple sandwich au rôti de bœuf. « Ça marche !» lança-t-il une serviette sur le bras. Il brandit un plat de viande et du pain cuit de la veille, essuya une table, s'invita lui-même à s'asseoir et s'empiffra jusqu'au moment où il éprouva le besoin de trouver une buvette pour y commander du bicarbonate. Le serveur, ou un certain Walter Grip, se montra d'une politesse étonnante et lui prépara aussitôt sa boisson effervescente. Il bourra ses poches de son gin d'autant d'argent qu'il put en trouver, remplit un chariot d'enfants de coupure de 10 dollars et partit à fond de train à travers la ville. En atteignant les faubourgs, il se rendit soudain compte à quel point il était stupide. Il n'avait pas besoin d'argent. Il rapporta les billets là où il les avait pris, préleva 1 dollar dans son portefeuille pour les sandwichs, le déposa dans le tiroir-caisse du traiteur et ajouta 25 cents pour le service. Ce soir-là, il errait au hasard tout en regardant dans les vitrines colorées des mannequins de cire, toutes ces femmes roses superbement vêtues. Pour la première fois, il se rendait compte à quel point la ville était morte. Il se tira une bière pression et se mit à sangloter doucement. « Bon sang, dit-il, je suis vraiment tout seul. » Il rentra à l'élite pour se projeter un film, se distraire de son isolement. La salle vide était caverneuse comme une tombe. Des fantômes gris et noirs rampaient sur le vaste écran. Frissonnant, il s'empressa de quitter le lieu hanté. Ayant décidé de rentrer chez lui, il s'engageait presque au pas de course dans une rue latérale lorsqu'il entendit une sonnerie de téléphone. Il tendit l'oreille. « Tiens, le téléphone qui sonne chez quelqu'un !» Sans s'attarder, il poursuivit sa route. « Quelqu'un devrait répondre, songea-t-il. » Distraitement, il s'assit au bord du trottoir pour ôter un gravillon dans sa chaussure. « Quelqu'un !» hurla-t-il en se relevant d'un bond. « Mais moi, plutôt ! Bon Dieu, qu'est-ce qui me prend ?» Il pivota d'un bloc. « Quelle maison ? Celle-là ?» Il fonça à travers la pelouse, grimpa les marches, entra, se rua dans un couloir sombre. Il empoigna le combiné. « Allô ! » cria-t-il. « Bzzz !» On avait raccroché. « Allô, brailla-t-il » Et il reposa violemment le combiné. « Espèce d'imbécile » s'injuria-t-il. « Resté assis sur le trottoir, pauvre idiot, sinistre crétin que tu es !» Il étreignit le combiné. « Allez, sonne, sonne encore, allez !» Il n'avait jamais pensé qu'il pouvait rester autant d'autres individus sur Mars. De toute la semaine, il n'avait vu personne. Il s'était imaginé que toutes les autres villes étaient aussi désertes que celle-ci. À présent, l'œil rivé à ce maudit petit appareil noir, il tremblait. Toutes les villes martiennes étaient reliées par l'automatique, de laquelle les 30 cinés venaient de l'appel. Mystère. Il attendit, s'aventura jusqu'à la cuisine anonyme, décongela des myrtilles qu'il mangea dans la consternation. « Il n'y avait personne à l'autre bout du fil, murmura-t-il. Peut-être qu'un pylône s'est abattu quelque part et que le téléphone a sonné tout seul. » Mais n'avait-il pas entendu un déclic signifiant que quelqu'un avait raccroché ? Il passa tout le reste de la nuit dans le couloir. « Ce n'est pas pour le téléphone, se persuadit-il. Il se trouve simplement que je n'ai rien d'autre à faire. » Il écoutait le tic-tac de sa montre. « Il ne se rappellera pas, dit-il. Elle ne se rappellera jamais un numéro. Oui, qui n'a pas répondu. Elle doit être en train d'en composer d'autres en ville, en ce moment même. Et je reste assis là. » Minute papillon. Il se mit à rire. « Pourquoi j'y tout le temps elle ?» Il s'y a. « Eh oui, ça pourrait être aussi bien il, non ?» Il quitta la maison et alla se planter au milieu de la rue dans la pénombre du petit matin. Il tendit l'oreille. Pas un bruit, pas un oiseau, pas une voiture. Rien que les battements de son cœur, pulsation, pause, nouvelle pulsation. Son visage contracté en devenait presque douloureux. Une légère brise, ô combien légère, soulevait les pans de sa veste. « Chut !» murmura-t-il. « Écoute !» Lentement, les jambes molles, il tourna sur lui-même, promenant son regard d'une maison silencieuse à l'autre. « Elle va appeler d'autres numéros, » songea-t-il. « Ce doit être une femme. Pourquoi ? Il n'y a qu'une femme pour appeler comme ça. Un homme ne ferait pas ça. Un homme, c'est indépendant. Est-ce que j'ai téléphoné à qui que ce soit ? Non, ça ne m'est même pas venu à l'esprit. C'est sûrement une femme. Il le faut, nom de Dieu !» Écoute, au loin, sous les étoiles, un téléphone se mit à sonner. Alors il s'élança, s'arrêta pour écouter. Faible la sonnerie, il reprit sa course sur quelques mètres. Plus forte, il s'engouffra dans une ruelle. Encore plus forte, il dépassa 6 maisons, 6 autres, nettement plus fortes cette fois. Il choisit une maison, la porte était fermée à clé. Le téléphone sonnait à l'intérieur, saleté. Il secoua la poignée. La sonnerie continuait, stridente. Il s'empara d'un fauteuil de jardin qui traînait sur la véranda, le projeta à travers la fenêtre du salon et sauta à sa suite. Avant même qu'il ait pu toucher l'appareil, le téléphone s'était tu. Alors, à grandes enjambées, il parcourut la maison, brisant les miroirs, arrachant les rideaux, expédiant des coups de pied dans la cuisinière. Finalement, épuisé, il saisit l'annuaire peu épais où étaient répertoriés tous les abonnés sur Mars. 50 000 noms, tout de même. Il commença par le premier, Amelia Arms. Il composa le numéro à New Chicago, à 150 km de l'autre côté de la mer Morte. Pas de réponse. Le deuxième numéro vivait à New York, à 8 000 km, au-delà des montagnes bleues. Pas de réponse. Il appela les numéros suivants, jusqu'au 8e, les doigts fébriles, incapables de maintenir sa prise sur le combiné. Une voix de femme répondit « Allô ?»« Allô ?» lui retourna Walter d'une voix tonitruante. « Allô, Seigneur, allô ?»« Ceci est un enregistrement, récita la voix féminine. Miss Hélène Arasumian est absente de son domicile. Veuillez laisser un message sur le répondeur afin qu'elle puisse vous rappeler à son retour. » Ceci est un enregistrement. Miss Hélène Arasumian est absente de son domicile. Veuillez laisser un message. Il raccrocha, puis s'assit, la bouche agitée d'un tic nerveux. Après réflexion, il refit le numéro. Quand Miss Hélène Arasumian rentrera, confia-t-il au répondeur, dites-lui d'aller se faire voir. Il appela les standards de Mars Junction, New Boston, Arcadia et Roosevelt City, des endroits, supposait-il, d'où il était logique de téléphoner. Ensuite, il contacta les maisons et autres institutions publiques de chaque ville. Il appela les meilleurs hôtels. C'était bien d'une femme de s'installer dans le luxe. Soudain, il s'interrompit, claqua des mains et éclata de rire. Mais oui, évidemment! Il consulta l'annuaire et composa le numéro du plus grand institut de beauté de New Texas City. S'il y avait un endroit où une femme devait se prélasser, assise sous un séchoir, des couches de boue étalées sur la figure, c'était bien un institut de beauté tout de même, avec des velours moelleux et des feux diamantins. Le téléphone sonna. À l'autre bout de la ligne, quelqu'un souleva le combiné. « Allô ?» fit une voix de femme. « Si c'est un enregistrement, avertit Walter Grip, je viens faire sauter la baraque. »« Mais ce n'est pas un enregistrement, dit la voix féminine. Bonjour, oh bonjour, il y a donc quelqu'un de vivant. Où êtes-vous ?» Elle laissa échapper un cri ravi. Walter faillit s'évanouir. « C'est vous ?» Il se leva d'un coup, les yeux fous. « Bonté divine, quelle chance ! Comment vous appelez-vous ? » ?»« Geneviève Selsor. » Elle pleurait dans le combiné. « Oh, je suis si contente d'avoir de vos nouvelles, qui que vous soyez. » Walter Grip. « Oh, Walter. Bonjour, Walter. Bonjour, Geneviève. Oh, Walter, c'est un si joli prénom. Walter, Walter. Merci. Où êtes-vous, Walter ?» Sa voix était si affaiblie, si mélodieuse, si délicate. Il pressait l'écouteur contre son oreille pour ne rien perdre du doux chuchotis. Il se sentait décollé du sol, les joues en feu. « Je suis à Martin Village, dit-il. Je... bzzz. Allô ?» fit-il. « Bzzz. » Il titilla le contact. Rien. Quelque part, le vent avait abattu un pylône. Aussi vite qu'elle s'était manifestée, Geneviève Selsor s'était envolée. Il refit le numéro, mais la ligne était coupée. En tout cas, je sais où elle est. Il se précipita hors de la maison. Le soleil se levait quand il sortit en marche arrière du garage anonyme au volant d'une coccinelle dont il avait rempli le siège arrière des provisions trouvées dans la maison. Et il s'élança à 130 à l'heure sur la grande route en direction de New Texas City. 1500 kilomètres, pensait-il. Ne bouge pas, Geneviève, ne bouge pas, tu veux entendre parler de moi. En quittant la ville, il klaxonnait à chaque virage. Au coucher du soleil, après une éprouvante journée de route, il s'arrêta sur le bas-côté, se débarrassa de ses chaussures trop serrées, se laissa aller sur son siège et rabattit son feutre gris sur ses yeux fatigués. Sa respiration se fit lente et régulière, le vent soufflait et les étoiles brillaient tendrement au-dessus de lui dans le crépuscule. Les montagnes martiennes s'étendaient alentour, vieilles de millions d'années. La clarté des étoiles se reflétait sur les tours d'une petite ville martienne, pas plus grande qu'un jeu d'échecs, nichée dans les collines bleues. Il atteignit New Texas City à minuit. Il pila devant l'Institut de beauté de luxe en hurlant à tue-tête. Il s'attendait à ce qu'elle se précipite dehors, tout parfum et tout rire. Mais rien ne se passa. Elle dort. Il alla à la porte. « Me voilà » cria-t-il. « Ouh, Geneviève !» La ville reposait dans le silence, du double clair de lune. Quelque part, un souffle de vent fit claquer un auvent de toile. Il ouvrit brutalement la porte vitrée et entra. « Ohé !» Il laissa échapper un rire forcé. « Ne vous cachez pas, je sais que vous êtes là !» Il visita toutes les cabines. Par terre, il trouva un minuscule mouchoir qui sentait si bon qu'il en défaillit presque. « Geneviève, » dit-il. Il parcourut les rues désertes au volant de sa voiture. Mais il ne vit rien. « Si c'est une farce ?» Il ralentit. « Attends voir. On a été coupé. Peut-être qu'elle est partie pour Martin Village, alors que je fonçais ici même. » Probable qu'elle a pris la vieille route du nord de mer. On s'est raté au milieu de la journée. Comment vous pouvez-elle savoir que je viendrai la chercher ? Je ne lui ai pas parlé et elle a eu si peur quand la ligne a été coupée qu'elle s'est précipitée à Marlin Village pour me trouver. Et moi qui suis là, bon Dieu, quel imbécile !» Sur un coup de klaxon, il quitta la ville en flèche et il conduisit toute la nuit. À l'aube, tout était calme dans Marlin Village. Des lumières jaunes continuaient de brûler dans plusieurs magasins et un jukebox qui avait joué pendant 100 heures d'affilée se tut enfin dans un grésillement d'électricité, rendant le silence complet. Le soleil réchauffait les rues, réchauffait le ciel vide et froid. Walter tourna dans la grand-rue. Ses phares toujours allumés, klaxonnant à coups redoublés, 6 fois à un croisement, 6 fois à un autre. Il scrutait les noms des magasins. Son visage était pâle, ses traits tirés et ses mains glissaient sur le volant, moites de sueur. « Geneviève » appela-t-il dans la rue déserte. La porte de l'Institut de beauté s'ouvrit. « Geneviève !» Il arrêta la voiture. Geneviève Selsor s'immobilisa sur le seuil de l'établissement tandis qu'il traversait la rue en courant. Elle tenait dans les bras une boîte de chocolat au lait ouverte qu'elle câlinait de ses doigts blafards et boudinés. Elle s'avança en pleine lumière. Elle avait un visage rond, aux traits lourds, et des yeux pareils à 2 gros œufs enfoncés dans une masse blanchâtre de pâte à pain. Des jambes comme des poteaux, une démarche pesante et sans grâce. Ses cheveux d'un châtain indéfinissable semblaient avoir servi et resservi de nid à des oiseaux. Elle n'avait pas trace de lèvres et compensait cela par une tartine de rouge ayant l'apparence d'une grosse bouche huileuse qui, d'abord beauté de ravissement, se referma sous le coup d'une soutaine à larmes. Ses sourcils épilés se réduisaient à 2 fines antennes. Walter s'arrêta net. Son sourire s'évanouit. Il resta planté là à la regarder. Elle laissa tomber sa boîte de chocolat sur le trottoir. Vous êtes Geneviève Selsor ? Il avait les oreilles qui bourdonnaient. Vous êtes Walter Griff ? Grippe. Grippe, rectifia-t-elle. Enchantée de faire votre connaissance, dit-il d'une voix réservée. Moi de même ? Elle lui serra la main. Ses doigts étaient poisseux de chocolat. Bon, dit Walter Grippe. Comment ? Demanda Geneviève Selsor. J'ai simplement dit bon. Ah ! Il était 9h du soir, ils avaient passé la journée en pique-nique et pour le dîner, il avait préparé un filet mignon qu'elle n'avait pas aimé parce qu'il était trop saignant. Il l'avait donc remis sur le grill et elle l'avait trouvé trop cuit ou trop dur ou allez savoir quoi. Il se mit à rire et proposa « On va aller voir un film ». Elle fut d'accord et lui prit le coude de ses doigts enduits de chocolat. Mais le seul film qu'elle voulut voir était un Clark Gable vieux de 80 ans. « Il n'est pas formidable ?» Elle en gloussait de plaisir. « Dites donc, il n'est pas formidable ?» Le film s'acheva. « Repassez-le » exigea-t-elle. « Encore ? » fit-il. « Encore » insista-t-elle. Et quand il revint s'asseoir, elle se blottit contre lui et lui colla ses pattes partout. « Tu n'es pas tout à fait ce que j'attendais, » admit-elle. « Mais tu es sympa. » « Merci, » articula-t-il en déglutissant. « Oh, ce Gable !» reprit-elle en lui pinçant la jambe. « Aïe !» dit-il. Après le film, ils allèrent faire les magasins dans les rues silencieuses. Elle brisa une vitrine et passa la robe la plus voyante qu'elle ait pu trouver. Puis elle se renversa un flacon de parfum sur les cheveux, ce qui la fit ressembler à un chien de berger mouillé. « Quel âge avez-vous » s'enquit-il. « Devine !» Toute dégoulinante, elle l'entraîna dans la rue. « Oh, 30 ans » lança-t-il. « Eh bien, déclara-t-elle avec raideur, « je n'en ai que 27, là. »« Tiens, voilà une autre confiserie !» s'exclama-t-elle. « Franchement, j'ai mené une vie de reine depuis que tout a explosé. Je n'ai jamais aimé mes parents. C'était des imbéciles. Ils sont partis pour la Terre il y a 2 mois. J'étais censé les suivre pour la dernière fusée, mais je suis restée. Tu sais pourquoi ?» Non, pourquoi ? Parce que tout le monde en avait après moi. Alors je suis restée là pour pouvoir m'asperger le parfum toute la journée, boire des litres et des litres de lait malté et m'empiffrer de sucreries sans qu'on me dise « Oh, c'est trop plein de calories !» Et me voilà. Vous voilà. Walter ferma les yeux. Il se fait tard, reprit-elle en le regardant. Oui, Je suis fatigué. C'est drôle, je me sens parfaitement réveillé. Ah, je resterai bien debout toute la nuit, dites donc. Il y a un bon disque chez Mike. Venez, je vais vous le passer. Je suis fatigué. Les yeux brillants, elle lui lança un regard plein de sous-entendus. Curieux, moi je me sens en pleine forme. Retournons au salon de beauté. Je veux te montrer quelque chose. Elle lui fit franchir la porte vitrée et le mena jusqu'à un grand carton blanc. En partant de Texas City, expliqua-t-elle, j'ai pris ceci avec moi. Elle défit le ruban rose. Je me suis dit, voyons, je suis là la seule femme sur Mars et lui, c'est le seul homme. Alors ? Elle ôta le couvercle et déplia dans un doux foufou de couche de papier de soie rose. Elle donna une petite tape sur ce qu'elle venait de mettre au jour. « Voilà !» Walter Grip avait le regard fixe. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il en se mettant à trembler. « Tu ne vois pas, idiot ? C'est tout en dentelle, tout blanc, tout délicat et tout ça. « Non, je ne vois pas. Ben, c'est une robe de mariée, idiot !»« Vraiment ?» Sa voix se brisa. Il ferma les yeux. Elle avait toujours la même voix, suave, fraîche et caressante comme au téléphone. Mais quand il ouvrait les yeux et la regarda, il recula. « Très jolie, dit-il, n'est-ce pas ? Geneviève, il jeta un coup d'œil vers la porte. « Oui, Geneviève, j'ai quelque chose à vous dire. « Oui ?» Elle amorça un mouvement vers lui, la violente odeur de parfum accompagnant sa grosse face de lune. « Ce que j'ai à vous dire, c'est... « Oui ? Adieu !» Et il était déjà dehors, puis dans sa voiture, avant qu'elle n'eût eu le temps de hurler. Elle se précipita jusqu'au bord du trottoir et s'immobilisa au moment où il virait en trombe. « Walter Grip, revenez » piailla-t-elle en levant les bras au ciel. « Grip » corrigea-t-il. « Grip » cria-t-elle. La voiture s'éloigna à toute allure dans la rue silencieuse, indifférente à ses trépignements et à ses criaillements, et les gaz d'échappement de faire voltiger la robe blanche qu'elle chiffonnait dans ses mains grassouillettes, et les étoiles de briller de tout leur éclat, et la voiture de s'évanouir dans le désert, engloutie par l'obscurité. Il roula sans s'arrêter 3 jours et 3 nuits durant. Une fois, il crut voir une voiture qu'il suivait. Saisi de sueur froide, il prit une autre route, coupant à travers le paysage martien. Désolé, passant de petites cités mortes, et ne cessa de rouler pendant 1 semaine et 1 jour, jusqu'à ce qu'il eût mis 15 000 kilomètres entre Marlin Village et lui. Alors il s'arrêta dans une petite ville du nom de Hotville Springs, où il y avait quelques boutiques qu'il pouvait illuminer la nuit et des restaurants où s'installer pour commander ses repas. C'est là qu'il vit depuis, avec 2 énormes congélateurs bourrés de vivres pour 100 ans. Assez de cigares pour 10 000 jours et un bon lit au matelas moelleux. Et quand de loin en loin, au fil des longues années, le téléphone sonne, il ne répond pas.